Il est 19h sur Europe 1. La reprise du match de Ligue des Champions entre le PSG et le Başakşehir Istanbul, au lendemain de son interruption historique, une soirée au retentissement mondial. On fera un point dès le début de ce journal et on s'interrogera aussi sur le silence de l'UEFA. Au sommaire également, un texte censé pacifier les esprits et pour rendre de la force à la République. C'est ce que dit en tout cas le ministre de l'Intérieur après la présentation du projet de loi confortant les principes républicains. Les négociations de la dernière chance sur le Brexit, Didier François nous dira que l'Union Européenne et le Royaume-Uni viennent de lever un sacré obstacle sur la voie d'un divorce à l'amiable.
Et ça y est, j'ai retrouvé mon micro. On parlera également de la plaidoirie de l'avocate de Nicolas Sarkozy, audience à laquelle assistait pour la première fois son épouse Carla. Deux enfermes ont été requis hier contre l'ancien président dans l'affaire des écoutes et puis des huîtres en gelée d'eau de mer. À défaut d'en déguster, on rendra hommage au créateur de la recette, le chef triplement étoilé Marc Menaud, qui s'est éteint aujourd'hui.
La tendance météo avec Anissa, qui a retrouvé son micro aussi. Neige et pluie au programme demain.
Oui, avec deux départements du sud-ouest placés en vigilance orange pour crue et avalanche. Prudence. Les températures vont baisser encore demain matin. Elles seront stationnaires demain après-midi. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et depuis quelques minutes, donc, la reprise du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Başakşehir Istanbul. Match qui a été arrêté et reporté donc hier après des propos jugés racistes du quatrième arbitre.
Mais on fait un point dès le début de ce journal et on s'interrogera aussi sur le silence, c'est vrai, de l'UEFA.
Oui, c'est une première dans l'histoire du foot, ce qui s'est passé hier soir. Cyril de la Morinerie, on vous retrouve en direct du Parc des Princes. On prend les mêmes et on recommence dans une ambiance forcément très particulière, on imagine.
Oui, très particulière en effet. Ce sont les mêmes joueurs qui ont repris sur le terrain, le jeu qui a pris au même endroit, là où il s'est arrêté devant le banc de touche des Turcs. Hier soir, le chronomètre s'était arrêté à la 14e minute au début de l'incident. Et bien, ce soir, la rencontre a logiquement repris à la 14e minute. Alors, avant le début du match, les 22 acteurs se sont échauffés avec un t-shirt No to Racism avec le logo des deux clubs. Et juste avant le coup d'envoi de ce match, Julien Froment vous l'a raconté il y a un instant. Et bien, moment solennel, moment important, les joueurs se sont rassemblés au centre du terrain. Ils ont formé un rond. Et Neymar, à l'instant, vient d'ouvrir la marque sous nos yeux d'une superbe frappe dans la surface de réparation. Il permet au PSG d'ouvrir le score, de mener 1-0. Et donc, juste avant, pendant l'hymne de la Ligue des Champions, eh bien, les joueurs ont rendu hommage donc à Webo, le joueur. Pour dénoncer donc le racisme, ils ont formé un rond, ils ont posé un genou à terre. Plusieurs banderoles ont été affichées dans ce Parc des Princes. Et puis au niveau sportif, donc le PSG mène 1-0. Et l'objectif pour eux, c'est de s'imposer. S'ils s'imposent, eh bien, ils termineront premiers de leur groupe.
Merci Cyril de la Morinerie.
Et à vos côtés, il y a Julien Froment qui était là aussi hier soir et qui a assisté à cette soirée surréaliste. Pour la première fois, donc une rencontre de Ligue des Champions n'est pas allée à son terme. Alors on attendait la réponse de l'UEFA. On l'attend toujours, Julien.
Oui, l'UEFA, très silencieuse hier soir, a enfin réagi. Elle a ouvert une enquête, je cite, approfondie avec effet immédiat. Un instructeur a été nommé. Quant à Pierre Webo, vous savez, entraîneur adjoint, victime des propos racistes. Hier, il avait été exclu. Et bien, son carton rouge a finalement été suspendu par l'UEFA le temps que l'enquête soit diligentée. Il est en ce moment même sur le banc de touche. Alors, finalement, le seul effet visible, c'est le changement d'arbitre. Le quatuor roumain a été remplacé par un arbitre néerlandais et ainsi que ses arbitres assistants. Il faudra attendre bien évidemment les conclusions de l'enquête pour connaître les éventuelles sanctions à l'encontre du quatrième arbitre, monsieur Sébastien Kolcheschkou.
Merci Julien Froment. On le rappelle, 1-0 pour le PSG, but de Neymar.
Julien, cette rencontre en fil rouge tout au long de cette soirée sur Europe 1 avec également Cyril de la Morinerie. On en parlera à partir de 19h15 dans le débat du Club des Idées. Comment lutter efficacement contre le racisme dans le foot. 19h04, la date est hautement symbolique. 115 ans jour pour jour après l'adoption de la loi de séparation des églises et de l'État en 1905, le projet de loi visant à conforter les principes républicains a donc été présenté ce mercredi en Conseil des ministres.
Et vous savez que l'exécutif a tergiversé sur le terme clé à employer pour ce texte, communautarisme, séparatisme, puis séparatisme au pluriel, avant d'y renoncer finalement face aux critiques. Il est donc désormais sur la table, il va passer devant l'Assemblée. La France insoumise promet d'ores et déjà de déposer des centaines d'amendements.
Et parmi les 51 articles que comporte ce projet de loi, le premier d'entre eux s'attaque à la neutralité religieuse dans toutes les entreprises publiques, qui tient particulièrement à cœur au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
L'article 1er du projet de loi évoque un sujet particulièrement important qui concerne toutes les collectivités locales de France. Il s'agit d'étendre aux délégations de services publics, les transports, les piscines, les marchés par exemple, aux concessions de services publics, et aux organismes ayant une mission de service public, Pôle emploi, la CAF, la CPAM, l'ensemble des offices qui travaillent de manière étendue dans l'action publique, les devoirs de neutralité qu'on impose aux agents publics. Pour être extrêmement précis, il ne sera plus possible de constater des comportements communautaires ou des ports de signes religieux pour ces agents qui travaillent au nom du service public, même s'ils ne sont pas directement un agent public au sens fonctionnaire du terme.
Le ministre de l'Intérieur au micro Europe 1 de Jean-Rémy Baudeau. Et le détail de ce projet de loi, vous pouvez le retrouver sur europe1.fr.
À quoi ressemblera Noël ? Aurons-nous le droit finalement de nous déplacer ? Les Français seront suspendus aux paroles du Premier ministre qui doit s'exprimer demain, 18h.
Alors que l'on espère, bien sûr, on espère encore une levée partielle du confinement mardi prochain, ça n'est pas garanti hein, au vu des derniers chiffres. Alors que le report de la réouverture des salles de cinéma, des théâtres et des musées est, semble-t-il, sur la table.
Oui Isabelle, et ça n'est pas forcément rassurant, mais nos voisins ne sont pas dans une situation plus enviable.
En particulier l'Allemagne, où, image rare, Angela Merkel est apparue extrêmement alarmiste hein, aujourd'hui devant le Bundestag, avec pratiquement des sanglots dans la voix. La chancelière a exhorté les députés à amplifier les fermetures de magasins et d'écoles. La deuxième vague est très meurtrière en Allemagne.
Conséquence en France de ce confinement, le nombre de morts sur les routes est en baisse. 33,9% de repli le mois dernier.
Oui, ce sont des chiffres très inférieurs à ceux de l'année dernière, mais qui s'expliquent évidemment, vous le disiez, par le confinement. On sort moins, on conduit moins. La mortalité des plus de 65 ans est même la plus basse de ces 10 dernières années pour un mois de novembre.
L'Agence européenne du médicament annonce ce soir avoir été victime d'une cyberattaque. C'est inquiétant. Est-ce qu'on en sait plus, Clément Le Saffre ?
Eh bien, l'Agence européenne des médicaments a communiqué de façon plutôt laconique. Elle affirme ne pas pouvoir divulguer de détails sur l'ampleur de l'attaque car l'enquête est en cours. On ne sait donc pas quand les hackers ont tenté de pénétrer les réseaux de l'agence, ni ce qu'ils cherchaient et s'ils ont réussi. C'est assez rare qu'une institution de cette taille soit directement visée par une cyberattaque. Les agences européennes possèdent des infrastructures informatiques très sécurisées et à dessein d'ailleurs, car l'Agence européenne des médicaments traite des données sensibles. C'est elle qui examine actuellement les différents vaccins contre le Covid en vue de leur mise sur le marché. Une cible de choix donc pour des hackers qui voudraient réclamer une rançon contre la promesse de ne pas divulguer leurs trouvailles. Dans une note publiée fin novembre, Kaspersky, spécialiste de la cybersécurité, faisait remarquer que les laboratoires et les établissements de santé sont de plus en plus visés par les cyberattaques. Il y a un an, le CHU de Rouen en avait fait l'amère expérience. Un virus avait éteint d'un coup les 6000 ordinateurs de l'hôpital. Il avait fallu une semaine pour restaurer le système.
Les précisions de Clément Le Saffre.
Les négociations à présent sur le Brexit, le Premier ministre britannique et la présidente de la Commission européenne dîne ensemble ce soir à Bruxelles.
Oui, alors que les choses avancent hein, avec cet accord qui a finalement été trouvé sur la question de l'Irlande. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors c'était un premier pas absolument indispensable, même si bien sûr ça ne règle pas tout.
Non, effectivement, mais enfin effectivement, l'Union européenne et le Royaume-Uni viennent de lever un sacré obstacle sur la voie de leur divorce à l'amiable, puisque le respect de la libre circulation des Irlandais entre le sud et le nord était un point de blocage insurmontable. Il était inenvisageable pour Bruxelles de signer un accord commercial qui supprimerait toutes les taxes douanières sur les produits si dans le même temps Londres réimposait aux Irlandais une frontière qui leur interdise de se déplacer librement entre la République et l'Ulster. Et d'ailleurs, Boris Johnson le savait parfaitement lorsqu'il a adopté au mois de septembre dernier cette loi dite du marché intérieur qui justement rétablissait les contrôles frontaliers en Irlande. C'était une provocation tout à fait volontaire dont l'objectif était de faire monter les enchères avant la phase finale des pourparlers afin de pouvoir céder in extremis ce qui était prévu et qu'il vient de faire pour finalement pouvoir se présenter en champion du compromis. L'idée étant bien sûr d'obtenir de l'Europe qu'elle abaisse ses niveaux d'exigence sur les sujets qui fâchent, à commencer par les droits de pêche.
Donc rien ne dit qu'un accord sera signé avant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne le 1er janvier prochain.
Eh ben non, sauf à céder à toutes les demandes britanniques. Or, il reste trois sujets lourds en suspens. Le premier, évidemment, les droits de pêche. Donc, il n'y a aucune raison de sacrifier les pêcheurs européens au nom de la souveraineté britannique retrouvée, quand dans les autres secteurs économiques, c'est la Grande-Bretagne qui bénéficiera principalement d'un accord de libre-échange avec l'Europe et même ses poissons sont exportés à 80% vers l'Union. Le deuxième sujet, c'est que Londres doit s'engager à ne pas servir de cheval de Troie commercial à d'autres pays, comme les États-Unis par exemple, qui pourraient être tentés de passer par l'Angleterre pour vendre leurs produits en Europe sans avoir à y payer des droits de douane. Et puis le troisième sujet, c'est accepter de reconnaître les compétences de la Cour européenne de justice pour trancher d'éventuels différends juridiques. C'est indispensable pour qu'un accord soit à la fois équitable et viable dans la durée.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Avec la suite du journal 19h11, Isabelle Millet. Cette question, Nicolas Sarkozy ira-t-il en prison? Hier, dans son réquisitoire au procès des écoutes, le parquet national financier a demandé 2 ans ferme contre l'ancien président.
Et la même sanction à l'encontre des 2 autres prévenus, son avocat Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert. L'accusation évoque un dossier qui a ébranlé l'institution judiciaire et l'état de droit.
Aujourd'hui, place aux plaidoiries.
Des plaidoiries que vous avez suivies pour Europe 1, Gladys Laffitte. L'avocate de Nicolas Sarkozy, maître Jacqueline Lafont, a fermement répondu aux réquisitions du parquet et elle a demandé bien sûr la relaxe de son client.
Oui, durant 2 heures et sous les yeux de nombreux soutiens présents dans la salle, dont Carla Bruni-Sarkozy, maître Jacqueline Lafont s'est employée à déconstruire le dossier, le regard bien tourné vers le parquet national financier. Et c'est d'abord à leur réquisition qu'elle a répondu avec ces mots. Ce ne sont pas quelques formules choc finales qui pourront masquer les faiblesses et le vide de l'accusation. La sévérité n'a jamais créé la preuve. Pour l'avocate de Nicolas Sarkozy, il n'y a pas le début du commencement d'une preuve, pas d'éléments matériels, pas de témoignages pour accréditer la thèse d'un pacte de corruption, mais seulement une interprétation de conversation jugée illicite et scandaleuse, des bavardages entre amis, entre clients et avocats. Elle a donc demandé la relaxe pour son client, assis attentivement, mains jointes devant elle, une relaxe pour faire la démonstration d'une justice simple, forte, libre et courageuse au-delà de toute forme de pression, a-t-elle conclu.
Gladys Laffitte qui suit pour Europe 1 ce procès.
Aucune piste privilégiée pour expliquer l'accident d'un hélicoptère de secours en montagne. C'était hier soir en Savoie.
Oui, 5 personnes ont succombé. 1 seul survivant, un pilote instructeur qui a été grièvement blessé. Et puis on parlait tout à l'heure du PSG. Le score n'a pas évolué. 1-0 pour Paris. C'est Neymar qui a marqué tout à l'heure, peu après la reprise de cette rencontre contre le Başakşehir d'Istanbul. L'Olympique de Marseille joue aussi ce soir sur le terrain de Manchester City. L'OM qui va tenter de décrocher une place en Ligue Europa. Ce sera dur, mais c'est jouable.
Bien. Et puis, c'est presque l'heure de passer à table, Isabelle. Alors, on a évidemment ce soir une pensée pour un grand chef qui vient de nous quitter.
Marc Menaud, triplement étoilé. Il était à la tête du restaurant L'Espérance dans l'Yonne, à Saint-Père-sous-Vézelay. Et c'était un génie de la cuisine au parcours atypique, Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, et quand on évoque Marc Menaud, impossible de passer à côté des cromesquis de foie gras ou de ses huîtres en gelée à l'eau de mer, 2 grands classiques du chef. Fils de bourrelier, la cuisine n'est pas une vocation. Il apprend tout dans les livres. Un autodidacte passionné, c'est ce que retient le chef Gilles Goujon.
C'est quelqu'un qui est parti de rien. Marc, c'est quelqu'un qui lisait beaucoup, beaucoup, qui avait la plus belle bibliothèque de cuisiniers du monde. Et donc, depuis toujours, il a été dans cette recherche-là. Il a essayé d'amener, j'allais dire, de la modernité dans la tradition.
L'année 1983 est un tournant pour Marc Menaud. Il est élu meilleur cuisinier français et il décroche sa 3e étoile au guide Michelin pour son auberge L'Espérance à Saint-Père-sous-Vézelay dans l'Yonne. Autre casquette pour le chef, le cinéma. Il est consultant sur plusieurs films, notamment Vatel avec Gérard Depardieu. En 2000, sur Europe 1, Marc Menaud expliquait la difficulté de cuisiner sur un tournage.
Entre le temps où on fait un plat et le temps où la scène se termine, il se passe parfois 8 heures, 10 heures, voire 2 jours. Alors, la scène n'a pas été finie, il a fallu recommencer le lendemain soir, on l'a mis au congélateur, on l'a ressorti une fois, ressorti 2 fois, et c'est là que l'on s'aperçoit que de faire du vrai cinéma avec des vraies recettes, que c'est pas évident.
Malheureusement, son restaurant ferme en 2015 après des ennuis financiers et une vie au service de la gastronomie. Marc Menaud s'est éteint à 77 ans. Il restera comme l'un des premiers grands chefs à avoir mis à l'honneur les produits bio de son potager dans ses plats.
Et c'est malin, maintenant j'ai faim. Merci Jean-Gabriel Bourgeois.
Bon appétit, mais si vous arrivez à faire des plats comme Marc Menaud, je viens manger chez vous dès ce soir, ma chère Isabelle. Merci Isabelle Millet, on vous retrouve demain. Un coup d'œil à la météo avec une grande cuisinière aussi qui est à mes côtés.
C'est vrai, pâtissière.
Bien, attention au risque d'avalanche demain.
Oui, le département des Pyrénées-Atlantiques est placé ce soir en vigilance orange avalanche. Demain matin, la neige tombe toujours, mais dans l'après-midi, le redoux pourrait provoquer donc des avalanches. Pour les Landes, nous avons une vigilance orange crue importante en aval de la Dour. Prudence, là aussi. Et puis, demain, le temps sera gris sur quasiment toute la France. Seulement la région parisienne, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes verront le soleil demain après-midi. Attention, il va faire froid. Moins 7 à Embrun, moins 5 à Annecy, moins 2 au Puy-en-Velay, 3 degrés à Paris, 7 à La Rochelle et 3 à 15 degrés demain après-midi.
3 à 15 degrés, le grand écart, comme souvent en France.
Exactement.
Merci Anissa, on vous retrouve demain évidemment. Dans quelques secondes, le débat du Club des Idées. Nous irons au Parc des Princes où le match interrompu hier après les propos racistes d'un arbitre a repris. D'abord la carte blanche signée ce soir, Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas Bouzou, économiste. Et ce soir, coup de griffe contre le comité scientifique de la vaccination. Qu'est-ce que ce comité-là ?
Alors, contre le conseil citoyen sur la stratégie vaccinale.
J'ai dit comité, pardon.
Tout à fait précis, c'est le conseil dont la création a été annoncée par le président de la République lui-même. Donc, il s'agit de 30 personnes qui seront tirées au sort et qui donneront leur avis dans le cadre de débats organisés par le Conseil économique, social et environnemental. Alors, ça fonctionne un peu comme la Convention citoyenne,
oui,
hein, c'est un peu la même inspiration, mais on peut penser que les débats seront un peu mieux cadrés parce que le Conseil économique et social et environnemental sait très bien faire ça.
Et pourquoi vous êtes très critique vis-à-vis de ce Conseil-là ?
Alors, pour deux raisons. La première raison, c'est que la question de la vaccination, c'est une question qui est technique. Alors, on sait qu'elle ne sera pas obligatoire, hein, ça a été annoncé par le président de la République, donc on a bien évidemment besoin de transparence, de toute la transparence sur cette vaccination, sur les vaccins utilisés, sur leurs effets secondaires éventuels, mais nous n'avons pas besoin d'avoir un débat auquel participeraient des citoyens qui n'ont pas de compétences sur ces sujets, surtout dans l'un des pays développés dans lequel la population est la plus réticente par rapport au vaccin. Il y avait ce week-end un sondage du Journal du Dimanche qui montrait que 60% des Français ne souhaitent pas se faire vacciner.
Oui.
Donc on a besoin surtout d'avoir des scientifiques qui convainquent les Français d'aller se faire vacciner, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y aura pas de sortie de crise sanitaire, bien évidemment, mais il n'y aura pas de sortie de crise économique, pas de sortie de crise sociale, si on n'a pas une vaccination de masse. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui expliquent pourquoi se faire vacciner, des gens qui se vaccinent et qui donnent l'exemple, et puis on a besoin d'une organisation sans faille.
Et je crois qu'il y a une autre raison pour laquelle vous êtes contre, plus philosophique.
Oui, tout à fait. Moi, je suis assez opposé à ces conseils citoyens de façon générale, parce que je suis très attaché à la démocratie parlementaire représentative. En France, le rôle du Parlement n'est déjà, à mon sens, pas suffisamment important. D'une certaine façon, ces conseils court-circuitent le travail de nos parlementaires. Et je voudrais rappeler que la démocratie, ça n'est pas le peuple qui gouverne, c'est le peuple qui choisit des représentants qui gouvernent.
Donc les conseils citoyens, c'est bien, mais la démocratie parlementaire, c'est mieux.
Absolument.
Merci Nicolas Bouzou pour cette carte blanche.
Europe 1, Julien Bugier.
19h19, restez avec nous dans quelques secondes. Le débat du Club des Idées. Nous irons au Parc des Princes et on parlera évidemment du racisme dans le foot. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on va revenir sur ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes. Un arbitre assistant qui tient a priori des propos racistes. Deux équipes, le PSG et les Turcs de Başakşehir d'Istanbul, qui décident de quitter le terrain. Le match a repris ce soir. On sera d'ailleurs en direct sur place dans quelques secondes. C'est du jamais vu, c'est inédit. Alors le racisme dans le foot est-il systémique, comme l'affirment certains ? Les instances du football professionnel ont-elles bien pris la mesure de ce qui est en train de se passer ? On en parle donc ce soir avec Alexandre Diallo. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du comité scientifique sport et citoyenneté, chercheur en sociologie à Paris 1 et spécialisé dans la perception de la diversité dans le football. On en parle également avec Pascal Boniface. Bonsoir Pascal.
Bonsoir.
Directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteur de L'Empire foot, comment le ballon rond a conquis le monde aux éditions Armand Collin. Et on en parle également avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir.
Chef du service des sports évidemment d'Europe 1. D'abord, un petit tour sur place au Parc des Princes, car le match a repris depuis maintenant une trentaine de minutes. Vous êtes sur place, vous suivez les événements, Julien Fromin. Alors, au-delà du fait que ça s'annonce plutôt bien pour le PSG qui mène 3-0, quelle ambiance règne ce soir sur le terrain ?
Bah écoutez, on fait comme si, entre guillemets, de rien n'était. L'appareil qui vient d'inscrire le troisième but par l'intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty. Alors, il faut rappeler que crise pandémique oblige, eh bien, le match se tient à huis clos. Il y a tout de même des banderoles qui ont été installées par les ultras du Paris Saint-Germain, les supporters du PSG, avec ces messages soutien à Monsieur Weibo, fier des joueurs, unis contre le racisme. Des joueurs qui ont donc arboré un maillot avec ce même message, non au racisme. Ils se sont mis à genoux, le poing levé. Mm-hmm. Ça rappelle bien sûr les images de Black Lives Matter qu'on voit notamment aussi sur les terrains de football anglais. Donc c'est une ambiance assez particulière, mais on fait en sorte, en tout cas, les 22 acteurs font en sorte que le football reprenne ses droits après ce qui a été, c'est vrai, quelque chose d'inédit dans l'histoire du football, parce que habituellement...
Et qui restera quelque chose,
oui,
d'inédit.
Parce qu'habituellement, ce sont plutôt malheureusement les supporters qui s'illustrent de cette manière-là. Et là, c'est normalement un des garants du jeu, référents, l'arbitre, eh bien, qui s'est illustré de la plus mauvaise des façons.
Julien Froment, vous restez évidemment branché avec nous et on va revenir à intervalles réguliers vers vous en direct du Parc des Princes. Première question, Pascal Boniface, y a-t-il ou non, comme on l'entend depuis ce matin dans les commentaires, un racisme systémique dans le football ?
Non, il n'y a pas un racisme systémique, il y a du racisme, il y a des supporters qui sont racistes, il y a des joueurs qui peuvent insulter d'autres joueurs pour les déstabiliser, il y a des arbitres qui sont aussi racistes, mais on peut dire que le système football est raciste. Je pense au contraire que le football est une arme pour combattre le racisme. Mais le fait que ce soit une arme pour combattre le racisme n'empêche pas certains débordements, de même qu'il y a des enseignants qui sont racistes, mais que l'éducation nationale n'est pas raciste. Une fois encore, il faut distinguer l'activité et le comportement de certaines personnes et le jeu, l'activité en tant que telle.
Alors Jean-François Pérez, même question d'abord peut-être sur le constat. L'international anglais Rio Ferdinand disait hier soir « Nous sommes à un point de basculement inquiétant. Il ne se passe pas une semaine sans un incident impliquant la question raciale. » C'est un état de fait, ça.
Je pense que c'est un effet de loupe. C'est un problème qui est de plus en plus traité par les médias.
Et c'est tant mieux.
C'est une cause qu'il faut défendre. Maintenant, je suis très triste parce que je ne sais pas si on aura l'occasion d'en discuter pendant les minutes qui viennent, mais je pense que les termes du débat de ce soir sont posés sur un malentendu, au mieux ou au pire de la malhonnêteté intellectuelle, parce que tout part d'un mot qui est négro, qui aurait été prononcé par le quatrième arbitre roumain et qui n'a pas été prononcé, parce que négro, c'est un mot qui n'existe pas dans le roumain. Je peux en parler puisque j'ai habité quelques années là-bas et que je parle cette langue. Le mot, c'est négro. Négro, ça veut dire noir, c'est la couleur de peau.
Alors, et ce n'est pas péjoratif ?
Non.
J'ai entendu dire que c'était plutôt péjoratif.
C'est stupide, non.
Oui. C'est stupide. Mais ça ne vous choque pas qu'on puisse dire à quelqu'un, toi, le noir ?
Ah, pour un arbitre de l'UEFA,
pour un arbitre de l'UEFA,
dans un match international, c'est un comportement qui n'est pas acceptable et qui va être condamné, bien sûr.
Donc c'est ça la question quand même.
Oui, mais il n'y a pas de racisme. Je ne pense pas, et pour avoir parlé avec les arbitres hier soir tard, il n'y avait pas d'intention raciste de leur part. Et quand bien même on veuille penser que les arbitres roumains avaient voulu donner une portée raciste à ce propos, on était dans un stade à huis clos, avec des caméras, avec des micros qui enregistraient tout. L'occasion était quand même terriblement belle de faire un coup d'éclat. Enfin, je veux dire, ils l'ont dit sans aucune façon penser à dire quelque chose de raciste. C'est une pénible, terrible, stupide maladresse, selon moi, plus qu'autre chose.
Mais parfois, les symboles, vous en conviendrez, permettent aussi de faire changer les mentalités. Alors peut-être qu'hier soir, ça n'était pas le cas, mais si ça peut permettre de faire changer les mentalités, c'est bénéfique tout de même.
Oui, bien sûr, mais c'est encore une fois, je ne vous méprenez pas, c'est un combat qui mérite d'être mené. Mais on est dans une époque qui pousse un peu volontiers et de façon un peu unanimiste à voir les choses d'une certaine manière. Je voulais juste apporter un petit peu de nuance.
Sur la ligne Noël Le Graët.
Non. Je parle juste de ce qui s'est passé hier soir. Je parle juste de ce qui s'est passé hier soir.
Bien.
Voilà. Un peu de nuance.
19h27, on continue d'en parler dans quelques secondes. À tout de suite, le racisme au sein du foot français et international. Alexandre Diallo réagira notamment. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, on est en direct dans le débat du Club des Idées. On s'intéresse ce soir à ce qui s'est passé hier au Parc des Princes. Le match a repris depuis une quarantaine de minutes et le PSG mène, c'est une bonne nouvelle, 3-0. Alors y a-t-il un racisme dans le football français, dans le football européen, dans le football international ? Et on s'interrogera également ce soir sur le rôle des instances professionnelles du football et notamment la déclaration, vous vous en souvenez peut-être, de Noël Le Graët, le patron du football français. Vous vouliez d'abord réagir, Pascal Boniface, vous me disiez pendant les quelques secondes de pause, sur cette image des joueurs qui se sont rassemblés avant le coup d'envoi ce soir, au moment de la reprise du match, au Parc des Princes, et ils se sont unis pour envoyer un message fort contre le racisme.
Oui, on a 22 joueurs qui sont autour du rond central et qui sont à genoux ensemble. Alors, des joueurs qui s'agenouillent, qui mettent un genou à terre avec le poing levé pour protester contre le racisme, on l'a déjà vu, mais c'était un ou deux joueurs. Là, ce sont les deux équipes qui le font ensemble, comme d'ailleurs les deux équipes avaient décidé de quitter ensemble le terrain hier, alors que les joueurs du PSG auraient pu se dire « Tant mieux, les joueurs d'Istanbul partent, on a gagné par forfait et on est qualifié. » Ils auraient pu avoir ce réflexe-là. Ils ne l'ont pas eu. Cette photo, c'est un peu comme celle du 200 mètres de Mexico, où vous avez ces deux joueurs, Carlos Smith, et qui ont le poing levé. Je pense que cette photo va faire le tour du monde et qu'il va y avoir un avant et un après. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois qu'il y a des propos plus violents que ceux qui ont été tenus, et je vous rejoins là-dessus. Mais il y a toujours dans l'histoire un moment où ce qui était accepté, ça bascule, c'est plus acceptable. Et je ne dis pas que cet arbitre est le plus raciste de tous les arbitres, mais il a tenu des propos qui ont été qualifiés comme tels. qui sont celles, parce qu'il désignait quelqu'un par sa couleur, et qu'il y aura un avant et un après.
Alors, je voudrais qu'on écoute un court extrait, et après vous réagissez, Alexandre Diallo. Merci de votre patience. Un court extrait des incidents qui se sont passés hier soir au Parc des Princes. Voilà, pourquoi il dit négro? Alors peut-être qu'il y a ambivalence sur le terme de négro, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, Jean-François Pérez, mais quand même, c'est un état de fait qui peut amener un basculement. Votre réaction d'abord sur ce qui s'est passé hier, Alexandre Diallo, vous êtes membre du comité scientifique, sport et citoyenneté.
Tout à fait. Ce qui est choquant, ou en tout cas ce qui était marquant par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est que en fait, le scandale vient de l'arbitre. Et normalement, les arbitres n'étaient pas connus. En tout cas, les arbitres sont connus pour être des garants du jeu, de l'intégrité de la rencontre. Et c'est un arbitre qui parle à un autre arbitre et qui désigne un joueur en disant « c'est lui là-bas, c'est le noir ». Alors après, on peut discuter sur le fait est-ce que désigner une personne par sa couleur de peau ou par son ethnie, c'est quelque chose de raciste. Mais je pense que sur ces problèmes-là, il faut à la fois réfléchir sur la personne qui le dit, mais aussi sur la personne qui reçoit ce message-là. Mmh. Et ce que Dembaba et les autres joueurs, de couleur ou non, ont dit, c'est que finalement, pourquoi vous nous désignez nous comme des Noirs, alors que si c'était un joueur blanc, vous n'auriez pas dit le blanc. Et la deuxième chose, c'est ce que Pascal Boniface a dit, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est le fait qu'il n'y a pas simplement un joueur ou un membre de l'encadrement qui a été choqué, ou alors l'ensemble de l'équipe stambouliote qui a été choqué, mais également les joueurs parisiens qui ont pris fait et corps pour cette lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ils ont arrêté le jeu, oui, mais ils ont aussi provoqué le report du match qui se joue aujourd'hui. Et ce qui est intéressant là-dedans, enfin, à mon sens, c'est, si on prend un peu de recul par rapport à la situation, oui, c'est oui, que le football, finalement, c'est un peu comme Alain Ehrenberg dit, c'est-à-dire c'est une sorte de culte de la performance. Les joueurs, on les juge sur leur performance, ils sont bons, ils ne sont pas bons, ils marquent des buts, ils ne marquent pas des buts, ils ont fait gagner les équipes nationales, les clubs. Et ce qu'on s'aperçoit au fur et à mesure, c'est que finalement, les joueurs sont des citoyens et des citoyennes qui ont une responsabilité sociale, qui ont une utilité sociale, et qui finalement ne sont pas simplement...
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a un sondage qui vient de paraître, que j'ai retrouvé ce matin, qui montre que pour 55% des Français, les sportifs, donc les footballeurs, doivent avoir un rôle dans la société. Mais là, ce qu'on est en train de voir aussi, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les joueurs de foot, ils s'occupaient plutôt de compter leurs millions, de leurs comptes en banque.
Tout à fait.
Pas tous.
Et de leurs transferts. Pas tous, parce que justement, non, sur la question des salaires, il y a vraiment un miroir déformant. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur les joueurs les mieux payés. Il y a des enquêtes annuelles, France Football, Forbes, etc. On parle de Messi qui gagne 100 millions. On parle des scandales financiers. Oui. Mais finalement, ce qu'on s'aperçoit, en tout cas récemment, c'est-à-dire que les joueurs et les joueuses, j'insiste bien aussi sur les joueuses, ont un rôle social. Que ce soit Megan Rapinoe, quand elle s'exprime sur la lutte homosexuelle, mais aussi sur quand elle a pris effet fait et cause lors de l'élection américaine. Oui, mais oui, je voulais juste terminer là-dessus. Également, on peut voir le footballeur anglais Marcus Rashford qui finalement pallie à un manque du gouvernement anglais sur quelque chose d'assez sensible, puisque c'est l'accès à la nourriture pour les jeunes.
Alors c'est vrai, vous avez raison, pas tous, parce que je suis remonté un peu en arrière. Moi, je suis pas un grand pro du foot, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien être précis. Le premier qui a fait parler de lui et qui a dénoncé des insultes racistes et qui a fait grand bruit, c'est Georges Weah. C'était des insultes racistes.
Jean-Antoine Bell aussi.
Ouais, Jean-Antoine Bell, ouais. Mais Georges Weah, ça avait fait du bruit parce que premier ballon d'or non européen en 95, devenu depuis évidemment président de son pays, le Liberia. Il avait mis un coup de tête à un joueur de Porto après des propos racistes. Il avait pris 6 matchs de suspension en disant « Fair enough, j'ai pris mes matchs, c'est normal ». Mais en revanche, il s'était toujours indigné que les insultes, elles, n'aient jamais été punies en retour. Pascal Boniface.
Oui, effectivement, on se rappelle aussi que Jean-Antoine Bell, qui joue à Marseille, a été transféré à Bordeaux et la réception du match était de lancer des bananes pour l'insulter quand même. Donc il y a effectivement des joueurs. Et puis il n'y a pas seulement d'ailleurs la lutte contre le racisme. Bon, Lilian Thuram a créé une fondation. Il y a des joueurs qui s'engagent. Et puis plus récemment, l'Union nationale des footballeurs professionnels a créé un mouvement qui s'appelle Positive Football pour accompagner l'engagement citoyen et caritatif des footballeurs. Donc il y a la caricature du footballeur qui pense qu'aux bagnoles et qu'aux comptes en banque. Mais il y a aussi des gens qui s'engagent comme citoyens, qui vont dans les hôpitaux, qui font des actions. Et là, mais c'était souvent des actions, disons, caritatives, qui ne crée pas de clivage dans les débats. Là, il y a maintenant un autre phénomène, c'est les gens s'engagent sur des causes qui peuvent être clivantes.
D'abord, il y a un vecteur pour le faire et un support pour le faire, c'est les réseaux sociaux, ça c'est relativement nouveau, mais c'est vrai qu'on a vu que Mbappé et notamment Presley Kimpembe hier ont pris position contre le racisme sur Twitter. Et puis il y avait eu les événements aussi Samuel Paty où Mbappé avait pris position. Les événements aussi
aux États-Unis,
passage à tabac du producteur noir Michel Zecler par des policiers. Voilà, on sent qu'il y a une mobilisation et un intérêt pour les sujets de société qui est en train de monter chez les footballeurs.
C'est-à-dire que les footballeurs ne sont plus coupés de la société. Ils ne sont plus uniquement à jouer au ballon dans un stade, à faire des résultats. Ils le font. Et on a, pendant très longtemps, on acceptait, et on demandait même aux artistes, aux chanteurs, aux acteurs de cinéma de s'engager. Et on n'acceptait pas de la part des sportifs qu'ils le fassent, puisque la fiction, c'est qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, alors que c'est sans cesse mélangé. Et là, maintenant, de plus en plus, vous allez voir ces jeunes gens qui ont fait des études, qui s'informent, qui se tiennent au courant et qui vont prendre position.
Et qui veulent avoir un rôle à part entière dans la société. 19h38, vous restez avec nous, on va retourner au Parc des Princes dans quelques secondes. Jean-François Pérez, vous réagirez et on s'intéressera, parce que c'est un point important, je trouve, aux instances dirigeantes du foot. Quel rôle peuvent-elles jouer là-dedans? À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h40, la suite du débat du Club des Idées. On est toujours en direct et on s'intéresse à ce qui s'est passé hier soir au Parc des Princes et ses propos a priori racistes tenus par un arbitre assistant. On continue d'en parler et on sera dans un instant au Parc des Princes en direct où le PSG, je le rappelle, bonne nouvelle, mène 3-0. Alors, quel est le rôle dans ce débat sur le racisme des instances dirigeantes du foot? Souvenez-vous ce qu'avait dit il y a peu de temps Noël Le Graët, le patron du foot français. C'était dans l'émission Face aux auditeurs sur notre antenne.
Les spectateurs, quelquefois, on ne peut pas tout contrôler, mais ça ne peut pas être le football. Le football n'est pas raciste. Les joueurs s'entendent bien, ils sont fiers d'appartenir à un club. Et en général, en amitié, il n'y a aucun écart entre les joueurs.
Voilà, il l'a dit autrement sur une autre radio, il n'y a pas de racisme dans le sport, disait-il. Pourquoi nier l'évidence, Jean-François Pérez, même s'il n'est pas systémique, ce racisme?
Le football, si vous prenez ça comme sport, si vous prenez ça aussi comme Noël Le Graët, qui est le patron de la fédération, qui rassemble plus de 2 millions de personnes, et il parlait en l'occurrence pendant cette émission du foot professionnel, n'est pas intrinsèquement raciste. On ne peut pas l'accuser de l'être par nature.
Mais bon, voilà. On peut poser des mots aussi
Les équipes, si on veut se dire les choses de façon un peu politiquement incorrecte, les équipes du championnat de France de Ligue 1 sont composées au moins pour moitié de joueurs noirs. Excusez-moi, j'ai dit noir, de joueurs à la peau noire. Bon, voilà. Ça ne pose strictement aucun problème. Ouais. Et franchement, on s'en fiche.
Ouais.
Ce qui est important, c'est que les joueurs soient bons.
Mais ils continuent de se faire insulter par les supporters quand même. Moi, je voudrais vous faire écouter.
Non,
par exemple...
franchement, Julien, c'est moins le cas ces dernières années parce que beaucoup de progrès ont été faits.
Je voudrais vous faire écouter une archive, celle de Patrice Evra, sur les lettres racistes reçues à Clairefontaine. C'est pas moi qui le dis, c'est
lui. Il y a une dizaine d'années.
Écoutez-le.
C'est pas une balance, hein, Noël. Mais là, je suis obligé de parler au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit racistes, des lettres. Hey, Didier, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça? Mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs... Mais moi, j'en ai vu certaines.
Alexandre Diallo.
Oui, je voulais juste revenir là-dessus et sur finalement cette une sorte de, à la fois de cécité mémorielle, c'est-à-dire que... ou alors, je sais pas, c'est soit ça, soit une forme de colorblind, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème et finalement le seul critère sur lequel on juge les joueurs, c'est la performance. Donc on peut avoir des équipes composées, ce que vous disiez, championnat 50% de noirs, etc. Et finalement il n'y a pas de problème parce qu'on supporte nos clubs et parce que les joueurs sont bons, sont mauvais. Pour moi ça pose un vrai problème, en fait ça met juste en exergue une chose, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'ai dit, c'était même Samuel Umtiti dans un documentaire, c'est-à-dire cette espèce de loi du silence, c'est-à-dire que en fait on a des joueurs qui grandissent avec cette exigence de culte de la performance et puis ils arrivent au niveau professionnel et donc ils sont blindés et donc on peut leur dire un petit peu, on peut avoir des propos qui peuvent être qualifiés d'injures raciales, mais finalement à partir du moment où la personne ne veut pas vraiment le dire, ou finalement on dit juste noir, on dit l'arabe, ou etc., finalement c'est pas si grave. Pour moi ça pose un vrai problème qui est fondamental, qui est le problème à la fois de la personne qui dit la chose, mais aussi de la personne qui la réceptionne. Et ce que dit Noël Le Graët, c'est à la fois... c'est problématique et c'est symptomatique. C'est-à-dire que c'est problématique parce que oui, on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des problèmes de racisme à tous les étages, c'est-à-dire au niveau amateur, mais aussi au niveau professionnel. Et c'est symptomatique parce que finalement, c'est cette idée de bah, c'est juste un petit îlot et finalement, ça ne correspond pas à la situation. Le problème étant, je le redis, et pour moi, c'est central dans cette question-là, c'est la question de la personne qui le dit et pas le fait de dire il est gentil et puis à partir du moment où il ne pense pas être raciste, eh ben, il peut dire ce qu'il veut. Et c'est aussi la question de la personne qui réceptionne la parole.
D'ailleurs, peut-être preuve en est, c'est qu'il y a quand même des clips contre le racisme qui sont lancés par la Ligue professionnelle de football.
Les instances luttent contre le racisme. Et pour revenir au propos de Noël Le Graët, il ne faut pas confondre. Quand il dit que le football n'est pas raciste, c'est-à-dire que le football en tant que tel n'est pas raciste. Et il ne nie pas qu'il puisse y avoir du racisme dans le football. C'est une chose différente de dire qu'il y a du racisme dans le football ou que le football en tant que tel est raciste, puisque vous avez des gens qui n'aiment pas le sport et qui disent que c'est le sport qui génère du racisme. Non, il y a du racisme qui se greffe sur le sport.
Est-ce qu'il y a un problème sur les instances européennes, juste pour avancer? Alors, l'UEFA, par exemple.
Bah oui, quand on voit la photo, il n'y a pas beaucoup de diversité.
Qui a diligenté. Oui, non, mais les instances, on va en parler dans deux secondes. Ouais. D'abord sur ce qui s'est passé hier, qui a diligenté une enquête. Le carton rouge, d'ailleurs, qui a été mis, a été gelé dans l'attente des conclusions de cette enquête. Mais tout de même, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité des instances européennes qui, a mis beaucoup de temps à réagir hier soir et puis qui a tenté d'engager les joueurs pour qu'ils reprennent le match?
Je serais moins sévère que vous sur ça. Là-dessus, quand même, les instances font leur boulot. Ils ont quand même des politiques de sensibilisation contre le racisme, des sanctions qui sont prises, même si pendant très longtemps, on n'a rien fait. Et là, c'est beaucoup plus différent. Il y a vraiment des sanctions qui sont prises. Par contre, c'est vrai qu'il y a un plafond de verre. C'est vrai que quand on regarde la composition des équipes et le banc des entraîneurs et encore plus les sièges, des fauteuils des dirigeants, on voit qu'il y a un problème. Je me rappelle que
Si je me trompe, mais en France, il y a un entraîneur noir
qui vient d'être viré.
Oui, il vient d'être viré.
C'était Patrick Vieira. Alors, il n'est pas été viré parce qu'il était noir. Non. Il a été viré parce que, comme tous les entraîneurs qui sont virés, qui perdent 5 matchs de suite. Mais je me rappelle que Pape Diouf disait que c'était une anomalie sympathique puisqu'il était le seul président noir de tous les clubs européens de football. Et donc, c'est sûr que quand vous avez un Zidane, un Thuram ou un Desailly, vous le prenez. Mais après, c'est plus difficile de devenir entraîneur, de devenir dirigeant. Donc là, on voit qu'il y a quand même un problème de représentativité de la diversité dans les instances.
Hier soir, on a beaucoup reproché à l'UEFA sa lenteur dans une époque qui va très vite. Trop, sans doute, en permanence. Mais il faut comprendre aussi qu'ils se sont retrouvés face à une situation qui était inédite. C'est que c'est la première fois qu'un arbitre est accusé de propos racistes dans un match aussi important.
Les instances de l'UEFA, il n'y avait pas de règles pour sortir un arbitre du terrain.
Il y a un vide juridique. Et donc, ils ont pris en effet une heure ou deux avant de réagir. Ils ont proposé la solution de remplacer le quatrième arbitre par celui qui était en train de s'occuper de la vidéo. Ça a été refusé. Et la soirée s'est prolongée comme ça avec des négociations qui n'ont pas abouti. Et l'UEFA, sur les coups de 23h, 23h30, a publié un premier communiqué. Ça explique un peu aussi pourquoi ils n'ont pas voulu réagir ou surréagir dans l'instant et sous le coup de l'émotion.
Sur la diversité, Jean-François, vous partagez ce qui a été dit, c'est que la diversité sur le terrain, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on monte dans les échelons de la hiérarchie, que ce soit dans les clubs ou au sein des fédérations, là, c'est plus compliqué.
Ça se constate. Maintenant, moi, je suis un républicain et j'aimerais que la méritocratie soit appliquée dans tous les domaines d'activité. Je constate en effet avec certains déplaisirs qu'au sommet de la pyramide, en effet, il y a peu de diversité. Maintenant, si vous allez sur les terrains le samedi et le dimanche du foot amateur, vous en verrez partout. Oui, et la Coupe de France, par exemple, qui aurait dû démarrer pour les clubs professionnels dans quelques jours, est l'illustration parfaite que ça existe, mais à un niveau inférieur. Maintenant, il faut essayer de faire plus de progrès pour les clubs professionnels.
Alexandre Diallo.
Oui, évidemment, je rejoins les propos qui ont été dits. C'est évident que dans les instances, que ce soit au niveau des clubs, mais aussi au niveau des fédérations, mais de manière plus générale, ce n'est pas simplement le football, c'est les autres sports également. Mais là, ici, on parle de football. Il est évident qu'il y a un manque de représentativité des personnes de couleur.
C'est pareil chez les préfets, c'est pareil chez les députés.
Oui, mais je suis d'accord, mais le problème en fait de s'arc-bouter sur cette notion de méritocratie, c'est que la méritocratie, elle repose également sur.
Elle peut se provoquer parfois, si c'est ce que vous voulez dire.
Elle peut se provoquer, et à partir du moment où on constate des manquements, on doit aussi agir en fonction de.
Les mérites de certains ne sont pas reconnus. C'est ça la méritocratie.
Et je regrette qu'il n'y ait pas plus de Pape Diouf en France.
Alors, 19h48, ça sera le mot de la fin, Jean-François Pérez, et c'est tant mieux. 19h48, je voudrais juste qu'on retourne au Parc des Princes, où sur le terrain, tout a l'air, Julien Fromin, de se passer plutôt bien, et le PSG confirme son avance 3-0. Hein.
Oui, exactement, ça vient de reprendre la seconde période, et pareil, qui vient de se procurer une énorme occasion, toujours 3-0, doublé de Kylian Mbappé, de Neymar et but de Kylian Mbappé, ce qui permet pour le moment, virtuellement, au Paris Saint-Germain, bien de terminer premier de son groupe et donc en huitième de finale de jouer le match retour à domicile en espérant et eh bien que au mois de mars prochain il y ait du public dans ce Parc des Princes qui est ce soir désespérément vide.
Merci Julien et merci à mes invités, à tous les trois d'avoir animé avec
merci
moi le débat du Club des Idées. Vous restez avec nous 19h49 dans quelques secondes les archives d'Europe Soir et ce soir direction le Proche-Orient, on vous raconte la première intifada, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Oui, la suite du Club des Idées avec les archives d'Europe Soir pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir Mathieu Bock.
Bonsoir Julien.
Alors ce soir, vous nous emmenez au Proche-Orient. C'était il y a 33 ans, 9 décembre 87, débutait la première intifada dans la bande de Gaza. Ce mot, qui veut dire soulèvement en arabe, est devenu synonyme de la révolte de la population palestinienne, souvent appelée la guerre des pierres. Elle a montré en tout cas à la planète entière à quel point la population palestinienne se sentait désespérée.
Oui, le monde découvre ce jour-là ces images d'enfants et d'adolescents jetant des pierres et des bouteilles à des soldats israéliens qui répliquent à coups de grenades lacrymogènes et de fusils d'assaut. Et si cette intifada commence précisément ce jour-là, le 9 décembre, c'est parce que la veille, un camion de l'armée israélienne a percuté une voiture, tuant ses quatre occupants palestiniens sur le coup. La population ne croit pas à l'accident et parle de meurtre. Le lendemain, donc le 9, le jour des funérailles des quatre victimes, des émeutes éclatent à Jabalia, dans la bande de Gaza. La foule attaque une position de l'armée israélienne en jetant des pierres et des cocktails Molotov. À partir de ce jour-là, ces scènes de harcèlement continuent, se répéteront chaque jour, entraînant très rapidement des morts. C'est ce que raconte Ben Porat, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv à l'époque.
Encore 2 morts et 7 blessés cet après-midi à Gaza, ce qui porte le bilan des émeutes dans les territoires occupés à une quinzaine de morts et à plus de 50 blessés. Des émeutes ininterrompues depuis 15 jours. Les manifestants, comme toujours de très jeunes gens, ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des barres de fer sur les soldats israéliens. Menacés, les soldats ont été contraints d'ouvrir le feu. Les blessés ont été transportés dans un hôpital de Gaza. Mais une foule en colère a assiégé les abords de l'hôpital. À l'heure qu'il est, les forces israéliennes encerclent le secteur et dispersent la foule.
Oui, déjà à l'époque, les autorités israéliennes tentent de rassurer la communauté internationale qui s'inquiète de l'emploi de la force disproportionnée par l'État hébreu.
Oui, Israël se justifie en disant qu'il faut frapper fort tout de suite pour tuer le mouvement dans l'œuf. D'ailleurs, l'ambassadeur d'Israël en France, Ovadia Sofer, minimise l'ampleur du soulèvement. Le 20 décembre 1987, il explique que ces émeutes ne sont que passagères et qu'elles sont d'ailleurs en train de se terminer.
Ce que je peux dire, c'est qu'il y a un accalmie depuis quelques jours. Et évidemment, il y a toujours des incidents. Hier, les incidents qui se sont produits à Jérusalem et à Gaza qui ont agité encore davantage. Mais sur le plan général, ces troubles sont en train de diminuer.
Il n'était pas visionnaire, lui, parce que ça fait 33 ans que ça dure.
Exactement, et c'est ce que lui a répondu Amada Aïssid. Vous n'avez encore rien vu, dit-il. Le représentant de la Ligue arabe à Paris explique au contraire que ce mouvement de révolte va s'inscrire dans le temps.
J'ai la certitude que ce mouvement va continuer, il va s'intensifier jusqu'à ce qu'un jour, les pays comme la France, les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, fassent quelque chose de plus concret que d'exprimer tout simplement l'inquiétude et l'émotion. Il faut d'abord qu'il y ait une pression des pays européens pour que cela s'arrête. Ensuite, nous demandons éventuellement des observateurs français ou internationaux pour s'interposer entre une armée munie de fusils mitrailleurs et de blindés et une armée d'enfants qui portent des pierres.
Alors cette première intifada durera quasiment 6 ans jusqu'au 13 septembre 1993 lors de cette poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat qui scelleront les accords d'Oslo. Selon l'ONG israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, durant ces 6 ans d'affrontement, on dénombrera plus de 1100 victimes côté palestinien, dont 241 enfants et 160 côté israélien, dont 5 enfants.
Merci Mathieu Bock pour ces archives. C'est toujours un plaisir de remonter le temps pour éclairer l'actu. Merci à vous Mathieu. 19h56, dans quelques secondes, la musique. Après le rappel des titres, Émilie Mazoyer. Salut Émilie.
Salut Julien.
Quel est ton programme ce soir?
Alors ce soir, je reçois un groupe français qui fait du rock. Et en ce moment, on ne peut pas dire qu'ils soient très très nombreux. Donc nous allons les chérir. Ils s'appellent Animal Triste et ils se sont fait connaître avec cette reprise de Bruce Springsteen. Even if we just dancing in the dark. Reprise de Dancing in the Dark par Animal Triste. L'album vient de sortir et on va donc les rencontrer ce soir dans Musique.
Bon, bah c'est top. À tout de suite, Émilie.
Alors,
on se retrouve dans quelques instants. Merci à toi, Julien Pierce, pour le rappel de l'info dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. On écoute Le Monde Changer, évidemment, sur Europe 1. Rendez-vous demain, 18h. Belle soirée.